La Chronique Animaliste, votre rendez-vous mensuel sur la cause animale, proposé par les antennes locales des associations Cétacé, L214, du Parti Animaliste et par le collectif Nantais pour les animaux.
À retrouver tous les premiers mardis du mois à 18h45 sur le 91.2 FM et en podcast sur jetfm.asso.fr.
Bienvenue à toutes et à tous dans la nouvelle chronique animaliste. Aujourd'hui, l'équipe L214 va vous parler des produits laitiers et des alternatives qu'on peut trouver à ces produits. Moi-même, Laurie, je vais vous parler des solutions qui existent. Et nous discuterons avec Vegan de Bretagne, Sandrine, qui nous parlera de son activité puisqu'elle propose justement ces solutions. Aujourd'hui, dans les supermarchés et les magasins bio, on trouve beaucoup d'alternatives. Des laits de soja, avoine, riz, noisette, épeautre, amande, etc. qui permettent même de faire des crèmes, des yaourts, qui sont également commercialisés. Et on trouve aussi de plus en plus de fromages végétaux, crèmes glacées. Pour remplacer les beurres, on peut utiliser des margarines ou des huiles. Enfin, voilà, tout est accessible dans le commerce. Et même le monde de la restauration joue ce jeu, puisque aujourd'hui nous recevons Sandrine, de Vegan de Bretagne, qui produit et qui vend sur son triporteur des brioches, des pâtes à tartiner et même du beurre, sans utiliser aucun produit animal. Bonjour Sandrine.
Bonjour Laurie.
Alors, tu es référencée sur vegoresto.fr. Donc, vegoresto.fr qui référence tous les établissements qui ont une offre végétale à leur carte. Et toi, c'est encore plus évident puisque tu fais du 100% vegan.
Exactement. Mon nom donc ne laisse pas du tout d'ambiguïté sur mon activité.
C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter? Quel est ton parcours professionnel? Comment tu en es arrivée là?
Donc moi, je viens d'une famille qui était dans la bio. Mon père et ma mère travaillaient dans une boulangerie, donc 100% bio. Et donc j'ai grandi dans cet univers. Ils étaient déjà sensibilisés un petit peu au problème du lait dans l'alimentation. Mais c'était plus pour des raisons de santé, moins pour des raisons éthiques. Et donc il y a environ... moi, je suis passée végétarienne il y a 30 ans de cela. Donc j'ai décidé de monter mon entreprise il y a 3 ans parce que ça correspondait vraiment à une période où mon alimentation changeait également pour aller vers le véganisme.
D'accord, donc c'est pour ça que tu choisis de ne proposer que du 100% vegan.
Voilà, parce qu'en fait, je ne me voyais pas travailler les produits animaux n'en consommant pas moi-même. Voilà, je refuse l'exploitation animale dans mon quotidien, donc ce n'était absolument pas pour en faire un commerce non plus.
Et quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées
Alors, quand j'ai monté mon entreprise il y a donc maintenant 3 ans, enfin, j'étais sur le projet il y a 3 ans et mon entreprise existe depuis 1 année. Au début, en fait, c'était encore le tout début de la médiatisation sur tout ce qui était donc les scandales sur la souffrance animale et se monter du véganisme. Donc, mon entourage et même les institutions n'étaient peut-être pas encore complètement prêtes à entendre un projet exclusivement sur une alimentation végétale. Voilà, donc c'était un petit peu... voilà, j'ai eu quelques personnes qui m'ont proposé de faire végétarien et végétal. Et pour moi, c'était hors de question. C'était 100% vegan, donc avec l'éthique en plus qui intervient, bien sûr, par rapport au végétal simple.
D'accord, oui, surtout que tu t'attaques un petit peu au terroir breton. Donc c'est peut-être encore plus difficile que...
Alors, je suis bretonne parce que je suis née à Lorient. Effectivement, se passer du lait, se passer du beurre dans la Bretagne, le beurre salé, c'est un peu inimaginable. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment mis au point un substitut au beurre qui ressemble en tout point, puisque c'est vraiment les retours que j'ai sur ce produit, au beurre breton, au bon beurre breton.
Alors, quelles ont été tes inspirations pour ça? Puisque finalement, il a fallu tout inventer.
Exactement. Moi, je consommais énormément de beurre au quotidien. Et ça a été une des premières choses que je voulais mettre au point. Mon inspiration était vraiment avec le mouvement L214 qui montait. Et puis, il y a aussi le livre de Marie Laforêt qui m'a beaucoup inspirée et qui était vraiment comme une révélation de se dire, mais on peut manger énormément de choses variées et qui ont l'air toutes succulentes. Donc, j'ai fait énormément d'essais et ma première réalisation était vraiment ce beurre. J'ai mis pas mal de temps à le réaliser, mais c'était une priorité de faire quelque chose sans aucun produit laitier.
D'accord. Donc, globalement, comment tu arrives à remplacer ces produits ?
Alors, il y a l'huile de coco qui est vraiment un produit qui est complètement similaire à la texture du beurre. C'est donc à la différence de l'huile de palme, puisque l'huile de palme aussi donne cette impression, mais n'a rien de vegan, puisque c'est absolument destructeur de tous les habitats pour les animaux. Mais l'huile de coco, on arrive à en trouver de la bio, de la équitable, et qui donc n'utilise absolument pas les singes pour aller chercher les noix de coco. Donc c'est vraiment un produit idéal quand on veut remplacer la matière grasse qui se tient comme un beurre.
Où est-ce qu'on peut retrouver tous tes produits ?
Donc pour l'instant, je suis distribuée dans quelques boutiques sur Nantes. Vous pouvez trouver dans le salon de thé Miam, il y a aussi l'épicerie vegan Treehouse. Et puis je vends devant les magasins Chlorophylle, enfin devant un magasin Chlorophylle qui est à Rezé 30 Mou. Et très bientôt, mes produits vont être également distribués dans les 7 Chlorophylle de Nantes. J'ai actuellement aussi des contacts, puisque des épiceries bio souhaitent distribuer mes produits un petit peu en Bretagne, où j'ai Bordeaux ou Le Mans qui commencent à être intéressés.
Donc, est-ce que tu envisages un site internet pour élargir le
thème ? Alors, j'ai mon site internet où j'ai quelques informations sur les points de vente, sur ma démarche et puis les produits que je fais. Et j'ai aussi une page Facebook et Instagram.
D'accord. Mais pour l'instant, on ne peut pas acheter directement.
J'ai une boutique en ligne qui est active. Si. Donc, je peux faire des envois aux particuliers. Pour le moment, c'est en place, oui.
Et globalement, est-ce que tu observes une mutation dans la demande ? Tu as beaucoup de demandes, tu arrives à contenter tout le monde ?
Alors là, c'est vraiment dans une période de développement pour moi. Et j'ai de plus en plus, en fait, dans la clientèle, des gens qui sont 100% véganes. Et donc ça, c'est vraiment une évolution très rapide que j'ai observée. Au tout début, ma clientèle était plus des personnes très intéressées, enfin très interrogatives surtout, et qui, en goûtant les produits, étaient séduites. Et maintenant, alors j'ai toujours cette clientèle, je rencontre toujours des nouvelles personnes qui découvrent. Mais de plus en plus, je rencontre des gens qui sont passés à une alimentation 100% végane.
Et dans tout ce que tu proposes, j'allais te demander, est-ce que tu as un coup de cœur végétal ? On a beaucoup parlé du beurre, mais tu fais d'autres plats traditionnels bretons ?
Oui, en fait, il y a les produits qui sont aussi les substituts à l'œuf et il y a la crème. Moi, mon produit un peu coup de cœur, ça va être le soja qui fait énormément, avec lequel on fait énormément de choses. On peut vraiment remplacer le lait, on peut faire des textures rapprochant de la viande. Et donc ça, c'est un produit, on peut faire de la crème aussi. Vraiment un produit que je trouve assez fabuleux. Et puis, il y aurait aussi un peu le lupin. Je pense que c'est une légumineuse qui va vraiment se développer avec la montée du véganisme, parce que là aussi, je pense qu'on peut en faire du lait. Je pense que bientôt, on en trouvera. Et puis on peut faire aussi, moi je remplace l'œuf dans la brioche. C'est vraiment dans beaucoup de productions alimentaires, on peut faire des gâteaux, on peut faire là où il y a besoin de jaune essentiellement, on peut mettre un peu de farine de lupin.
Très bien, merci pour ton témoignage. Donc on peut te retrouver sur ton site, sur ta page Facebook et sur vegoresto.fr, donc une campagne L214. D'ailleurs, si vous voulez nous retrouver aussi plus localement, il y a la page Vegoresto Nantes où vous pouvez avoir les actualités. Donc pour conclure, on pourrait dire que la gastronomie est en pleine révolution végétale. D'ailleurs, vient de sortir également par l'association le livre « Les chefs cuisinent vegan » aux éditions La Plage. Et puis, vous pouvez retrouver toutes les informations sur tout ce qu'on a dit lors de l'émission sur lait-vache.info et sur, bien sûr, le site l214.com qui propose des accompagnements vers une transition alimentaire, donc avec vegan-pratique.fr et un Veggie Challenge, donc qui est un programme sur 21 jours avec des conseils au quotidien. Merci Vegan de Bretagne. Donc on retrouvera toutes les informations te concernant sur le podcast de l'émission sur le site Jet FM. Et maintenant, pour clore ces deux émissions sur les produits laitiers, puisque la dernière fois nous avions vu pourquoi éviter ces produits animaux, aujourd'hui nous avons évoqué les alternatives. Pour clore ce thème, Catherine va nous conter l'histoire du choix de Sophie.
Donc je vais vous raconter une histoire touchante et vraie d'une vétérinaire qui a témoigné du choix de Sophie d'une vache laitière. Donc elle explique, alors l'un de mes clients me sollicita un jour pour résoudre un mystère. La veille, dans une prairie, l'une de ses vaches avait mis bas pour la 5e fois de sa vie. Et une fois rentrée à la ferme avec son nouveau-né, son veau lui fut retiré et elle conduite en salle de traite. Mais son pis était vide et il le resta pendant plusieurs jours. Après la naissance de son veau, cette vache aurait dû produire près de 47 litres de lait par jour. Cependant, et en dépit du fait qu'elle se portait bien par ailleurs, son pis restait vide. Elle partait au pré le matin, après la première traite, revenait pour la traite du soir et restait la nuit en prairie. C'était un temps où les bovins étaient autorisés à profiter un minimum de certains plaisirs au cours de leur vie. Mais jamais son pis n'était gorgé de lait comme celui d'une vache qui a mis bas. Je fus appelée deux fois sur place pendant la première semaine suivant son accouchement, mais je ne trouvais aucune explication. Finalement, le 11e jour, l'éleveur m'appela. Il avait trouvé la réponse. La vache avait donné naissance à des jumeaux et par un choix de Sophie, elle avait livré l'un de ses veaux à l'éleveur et gardé l'autre dans un bois en bordure de prairie. Chaque jour et chaque nuit, elle retrouvait et nourrissait son petit, le seul qu'elle ait jamais pu garder auprès d'elle. Malgré mes efforts pour convaincre l'éleveur de laisser la mère et son petit ensemble, il lui fut enlevé et envoyé dans l'enfer des boxes à veaux. Pensez un instant au raisonnement complexe élaboré par cette maman. Premièrement, elle se rappelait la perte de ses précédents petits et la conséquence de rentrer avec eux à la ferme. Ne plus jamais les revoir, une situation déchirante pour toute mère mammifère. Deuxièmement, elle formule un plan et l'exécute. Si ramener son veau à la ferme signifie le perdre inévitablement, alors elle l'installera et cachera son autre petit dans les bois, comme les biches, jusqu'à son retour. Troisièmement, et je ne sais comment l'expliquer, au lieu de cacher les deux veaux, ce qui aurait attiré la suspicion de l'éleveur, une vache gestante quittant la ferme le soir, la même vache revenant au matin non gestante mais sans progéniture, elle lui en a donné un et gardé l'autre. J'ignore comment elle a pu faire cela. Il aurait été plus probable qu'une maman désespérée tente de cacher ses deux petits. Tout ce que je sais, c'est qu'il se passe derrière ces yeux magnifiques beaucoup plus de choses que nous, humains, n'avons jamais voulu voir. En tant que maman qui ai pu élever mes 4 enfants, je n'ai pas eu à souffrir de la perte d'un seul d'entre eux. Je ressens sa douleur. Holly Shiver, docteur en médecine vétérinaire, vice-présidente du New York State Human Association.
La chronique animaliste, votre rendez-vous mensuel sur la cause animale, proposé par les antennes locales des associations Cétacé, L214, du Parti animaliste et par le collectif Nantais pour les animaux.
À retrouver tous les premiers mardis du mois à 18h45 sur le 91.2 FM et en podcast sur jetfm.asso.fr.